France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City, Sandy Berhousey.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce get in la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pierre.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans le golf avec Donald Trump.
Well, thank you very much. It's an honor to be here. What a great place. What a great place, but more importantly, what great people.
Voilà, un endroit formidable, des gens formidables, c'est son arrivée, enfin c'est sa première prise de parole en Arabie Saoudite. En arrivant, il y a aussi beaucoup de choses qu'il est en train de dire et qu'on verra au fur et à mesure, parce qu'il se passe quand même des choses dans ce premier discours réellement qui ont du sens. Bonsoir Agnès Levallois.
Bonsoir.
Vous êtes la vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranéennes Moyen-Orient, vous êtes chargée de cours à Sciences Po Paris. D'abord donc le voilà qui entame ce voyage dans le Golfe avec l'Arabie Saoudite, ça commence par un gigacontrat à 142 milliards de dollars, un contrat de défense. On a très bien compris qu'il était parti pour le business et que la guerre, c'est contre le business. En fond, on a l'impression que c'est ça, au fond, le mantra de ce voyage. Il est parti pile le jour de la libération d'un otage israélo-américain qu'il a négocié lui-même avec le Hamas. Derrière le business, est-ce que c'est le voyage du lâchage de Netanyahou, Agnès Levallois ?
Oui, je pense qu'il y a une partie, en tous les cas, que l'on peut tout à fait dire qu'il s'agit du lâchage de Netanyahou. D'abord, cette première négociation directement avec le Hamas est une baffe adressée à Netanyahou, puisque celui-ci, en fait, dit qu'il négocie, on sait très bien qu'il ne négocie pas, et que Trump a réussi à obtenir la libération de cet otage, qui suscite d'ailleurs beaucoup de critiques en Israël même, considérant qu'en fait, il vaut mieux être israélo quelque chose que simplement israélien, pour obtenir la libération des otages. Et donc ça, c'est un point quand même important. Et on voit Donald Trump, dont l'objectif, et vous l'avez rappelé, c'est de faire du business, et que la guerre, c'est la pire des choses pour ce business. Et donc, il va tout mettre en œuvre pour permettre d'atteindre ses objectifs économiques et financiers.
Après, c'est intéressant quand on regarde les choses avec un peu de recul, mais finalement pas tant que ça, c'est-à-dire deux semaines, trois semaines, pas plus. On a appris récemment que la raison pour laquelle il avait licencié Mike Walls, c'était pas tellement parce qu'il avait fait rentrer dans un groupe Signal un journaliste, mais c'est parce qu'il a eu des discussions avec Netanyahou au sujet de l'Iran. Il l'a fait dans le dos de Trump, probablement pour une histoire de bombardement, ce qui n'est pas du tout pour l'instant, dans l'idée de Trump, qui au contraire essaye de négocier au gré à gré. On a compris aussi que le cessez-le-feu avec les Houthis, pareil, il le fait tout seul, sans le dire à Netanyahou, ce qui est quasiment un crime de lèse-majesté. On a vraiment l'impression qu'il a mis en scène aussi, au fur et à mesure, ce qui peut-être va se dévoiler au fil de ce voyage-là. Il y a cette rumeur qui dit qu'il pourrait même faire une très grosse annonce demain au Qatar. Est-ce qu'il y a une espèce de mise en scène de ça, Agnès Levallois, selon vous ?
Oui, ça ressemble en tous les cas, puisqu'on voit les différents éléments qui s'enchaînent les uns après les autres. Donc ça commence par la libération de l'otage israélo-américain. On apprend pratiquement au même moment cette histoire, effectivement, sur l'Iran, de cette négociation entre Netanyahou, dont on sait qu'il rêve de bombarder l'Iran et que Trump ne veut pas en entendre parler. Et du coup, il lance les négociations avec l'Iran. Donc on voit bien qu'on est dans une séquence où Trump, en fait, va déjouer tout ce qu'on a pu dire lorsqu'il est arrivé au pouvoir en disant que pour Netanyahou, c'était formidable que Trump arrive, mais finalement la relation, et on savait déjà à la fin du premier mandat de Trump que la relation avec Netanyahou était une relation compliquée, parce que Netanyahou veut faire ce qu'il veut faire, et Trump ne veut surtout pas se laisser entraîner dans un chemin qui n'est pas le sien.
Ce qu'il dit aussi, et il le dit là dans cette première prise de parole, il dit nous avons ramené des otages, nous allons en ramener d'autres à l'avenir. C'est le sens aussi d'une discussion qui a eu lieu cet après-midi pendant que Netanyahou disait lui en Israël on écrasera tout ce qui bouge à Gaza. Dans le même temps, il y a l'émissaire américain qui rencontrait des familles d'otages, ce qui dit quand même quelque chose. Dans la foulée, il dit aussi les Gazaouis méritent une meilleure vie, ils doivent avoir des dirigeants qui ne kidnappent pas et qui ne tuent pas les gens. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire en creux qui peut-être il nous annoncera demain et après-demain. Est-ce qu'il nous annonce que ces histoires de Riviera, etc., à Gaza, c'est fini ? Que désormais, il protège les Palestiniens, mais pas le Hamas ? Qu'est-ce qu'il nous dit ?
Alors, ce qu'il nous dit, c'est que je crois qu'il a vraiment abandonné ce projet de Riviera, se rendant compte que c'était un projet complètement délirant. Le seul problème, c'est que le gouvernement d'extrême droite en Israël s'est complètement emparé de cela pour justifier toute la stratégie qui est mise en place. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il est contre l'opération telle qu'elle est annoncée par Netanyahou. Netanyahou, l'opération terrestre annoncée dans la bande de Gaza, puisque
dans les jours qui viennent,
est-ce que Netanyahou en fait attendait la visite de Trump dans la région pour ne pas l'entamer à ce moment-là, parce qu'il savait que là il allait vraiment s'attirer les foudres de Trump, qui ne pouvait pas arriver dans la région, et en particulier en Arabie Saoudite, puisqu'il veut, il a toujours ce rêve de la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël.
Il l'a dit d'ailleurs ça aussi. Il redit aux Saoudiens, il faut normaliser, exactement comme en gros il veut faire ressortir de leur formule les accords d'Abraham qui avaient été signés notamment avec les Émirats, où il sera dans 3 jours. Jusqu'à quel point il a besoin, à votre avis, de l'Arabie Saoudite là maintenant pour essayer de faire en sorte de peut-être d'étouffer le Hamas mais de maintenir les Palestiniens à Gaza? Jusqu'à quel point là-dessus il peut jouer avec les Saoudiens?
En fait, ce qu'il faut il faut revenir au plan qui avait été proposé par l'Égypte en réponse au plan de Trump sur la Riviera.
Donc le dernier plan arabe,
Il y a quelques semaines, qui a été endossé par la Ligue arabe, et qui prévoyait justement un plan qui mettait de côté le Hamas. Et donc, si...
Il parlait de désarmement du Hamas.
Absolument, parce que ça, c'est vraiment le point qui est le point important. Et donc, si Donald Trump est décidé, en tous les cas, à aller de l'avant pour trouver une solution dans la bande de Gaza, eh bien, il faut absolument s'appuyer sur quelque chose, parce qu'Israël n'a aucun plan politique de sortie de crise. Donc, il peut s'appuyer sur ce plan arabe, et pour cela, il a absolument besoin des Saoudiens, puisque, précisons qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est la puissance au sein de la Ligue arabe, la nouvelle puissance au sein de la Ligue arabe, puisque les puissances traditionnelles arabes n'ont plus du tout leur mot à dire dans tous les conflits actuels. Donc oui, l'Arabie Saoudite est l'élément majeur, clé de cette proposition, de cette nécessité d'avoir un plan.
Et il n'aura pas l'Arabie Saoudite si les choses restent en l'état à Gaza pour l'instant.
C'est impossible. La population saoudienne est vraiment vent debout contre la politique et la stratégie militaire mise en œuvre dans la bande de Gaza, et le prince héritier sait très bien qu'il ne peut pas passer outre la réaction de sa propre société, et donc il doit tenir compte de cela. Donc oui, pour Trump, il est très important de se reposer, si je puis dire, sur l'Arabie Saoudite. Alors, la seule question qu'on peut se poser, c'est que tout le monde, finalement, le président français aussi, avec cette proposition de conférence début juin à New York, conjointe avec l'Arabie Saoudite, tout le monde veut faire jouer un rôle central à l'Arabie Saoudite. Je pense que le prince héritier veut effectivement s'imposer, mais il faut aussi qu'il ait tous les moyens à disposition pour le faire. C'est un pays jeune et qui n'a pas forcément toute l'antériorité diplomatique qui lui permet de pouvoir jouer pleinement cette carte.
Sauf qu'il dit, par exemple, également qu'il va lever toutes les sanctions américaines contre la Syrie. Il dit qu'il va demain rencontrer entre deux portes, mais que tout de même rencontrer le dirigeant syrien. Et là aussi, on peut imaginer Netanyahou dans son bureau qui fait des bons quand même, non ?
Oui, parce qu'en fait, ça, c'est une façon finalement d'aller rencontrer tous les pays que Netanyahou, que Israël n'a de cesse de bombarder toute la journée. Et donc, il me semble que dans cette stratégie de Trump, il y a un élément important. C'est qu'aujourd'hui, tous les pays, les Palestiniens de la bande de Gaza, mais aussi en Jordanie, la Syrie, le Liban, et y compris l'Iran de certaine manière, de toute façon, ce sont des pays qui ont été complètement laminés, affaiblis ou autres. Mais je crois que Trump, maintenant, a conscience qu'une fois que tout ça a été obtenu, eh bien, il faut amener ces pays à négocier avec lui, pour finalement les contraindre complètement et les entraîner dans une nouvelle phase. Je crois que c'est une nouvelle séquence qui est en train de s'ouvrir, dans laquelle Netanyahou n'a plus sa place.
Très très applaudi, effectivement, Donald Trump, c'était la fin du discours sur la levée intégrale des sanctions avec la Syrie, et vous nous l'expliquez, Agnès Levallois, et c'est vrai, on a l'impression que ce qu'il leur dit, c'est attendez, vous êtes en train de parler avec moi et moi seul, en fait. On est en train de réaliser que aussi, est-ce qu'on peut appeler ça la doctrine Trump, en fait, après tout, chaque président américain a une doctrine. Est-ce qu'on se dit que la paix à tout prix, probablement pour faire de la place au business et en one-to-one, de toute façon exclusivement, c'est la doctrine Trump désormais? Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, on peut dire ça, d'autant plus que n'oublions pas qu'il a toujours ce rêve fou d'avoir le prix Nobel de la paix.
Oui,
et on sait que c'est un élément dans sa psychologie, alors je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage, mais dans sa psychologie, c'est un élément important. Et donc là, il se présente comme étant vraiment le faiseur de paix dans la région, quitte à tordre le bras de son allié traditionnel Israël, ce qui ne veut pas dire que les États-Unis abandonneront Israël, absolument pas. Mais ça peut être une nouvelle séquence sans Netanyahou et avec cette idée de faire la paix pour pouvoir montrer qu'il a été capable, lui, ce que n'a pas été capable de faire Netanyahou.
C'était la suite de ma question, Agnès Levallois. Ne pas lâcher Israël, mais lâcher Netanyahou, ça veut dire le lâcher de la tête et des épaules, ça veut dire participer, au fond, à sa sortie du pouvoir. On ne pourra discuter clairement avec Israël que lorsque ce ne sera plus lui, notre interlocuteur. Est-ce que c'est ça que ça veut dire en creux ou pas ?
C'est pas impossible. C'est une hypothèse, en tous les cas, aujourd'hui, que moi, je n'exclus pas. Je n'aurais pas forcément dit ça il y a quelques semaines, mais je crois qu'aujourd'hui, Trump est un pragmatique, on le sait, c'est un businessman, et donc il enlève progressivement les obstacles qui se dressent devant lui. Lui, il ne veut pas d'obstacles. Lui, il veut faire ce qu'il veut, comme il l'entend et comme il le conçoit. S'il y a un obstacle, y compris si c'est Netanyahou qui est a priori son allié, il ne se gênera pas de faire sauter cet obstacle. Mais j'insiste, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont se détourner d'Israël pour tout d'un coup soutenir les Palestiniens. Il ne faut pas du tout se tromper là-dessus. Mais en tous les cas, ça peut mettre un terme à cette terrible séquence et redonner un peu d'espoir aux Palestiniens.
Est-ce que Netanyahou, tout seul, comme il l'a dit, là, il dit donc dans les prochains jours, j'écraserai Gaza, enfin je ne me souviens plus exactement des termes, enfin ça dit vraiment ça. Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment le faire sans avoir le feu vert des Américains ?
Ce qu'il y a, c'est qu'il va profiter, et il profite actuellement de la séquence, parce que il peut, ces jours-ci, et là, la reprise des bombardements ces dernières 48 heures est absolument terrible. Là, il y a encore une offensive contre l'hôpital européen à Gaza qui est d'une violence inouïe. Donc, Netanyahou profite de cette tournée de Trump qui est occupé à faire des grands discours et à montrer qu'il va faire la paix pour continuer à bombarder, parce que je crois que Netanyahou est conscient que ça ne va pas durer indéfiniment, parce que Trump va vouloir mettre un terme à cela, et on sait très bien que les réserves en munitions de l'armée israélienne sont limitées dans le temps, et donc il ne pourra pas continuer indéfiniment si Trump le lâche.
Est-ce qu'on peut vraiment imaginer une situation pareille qui semble quand même assez dingue quand on pense à ce qui s'est passé ces derniers mois et même ces dernières semaines ? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer un lâchage complet de Netanyahou par Donald Trump ? Et lâchage complet, ça veut dire à partir de maintenant, effectivement, on ne fournit plus d'armes parce qu'on sait pourquoi vous les utilisez ? Est-ce que vous mettez le curseur, en tout cas la possibilité du curseur à ce niveau-là ?
Non, je ne mets pas aussi haut parce que je pense que c'est absolument ingérable et que ça ne sera jamais le cas de la part des États-Unis. Mais ce qui est probable, et je suis très prudente parce que avec Trump, il y a toujours
soyez
des volte-face et
je crois qu'il faut autre chose demain,
extrêmement prudent. Mais en tous les cas, que je répète cette expression, on rentre dans une nouvelle séquence, oui, et je pense que Netanyahou ne pourra pas continuer indéfiniment à déclarer qu'il va écraser encore plus, parce qu'il ne reste plus rien à écraser dans le monde de Gaza. Et les derniers propos, c'est on est en train de chercher des pays qui accueilleraient les Palestiniens.
Des points de chute pour les
donc
Palestiniens,
on voit bien que ça n'est pas possible, parce qu'il ne les trouve pas, ces points de chute. Quels sont des pays qui aujourd'hui vont se plier à ça. Ce qui est sûr, c'est que certains Palestiniens vont essayer de partir parce que la vie n'est plus supportable, mais qu'il n'y aura jamais un départ de 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza. C'est impensable.
Le voyage, il est vraiment à suivre, au Qatar demain, aux Émirats Arabes derrière, et on le redit, sans passer par Israël. Je ne suis pas sûre qu'un président américain ait fait un voyage dans cette partie du monde sans passer par Israël, ce que Trump est en train de faire en
et
ce moment.
Et son envoyé spécial est sur place.
Et son envoyé spécial, lui, est sur place, en train de discuter avec les familles des otages.
Exactement.
Agnès Levallois, vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et études méditerranéennes Moyen-Orient et on vous remercie beaucoup. La suite, ce soir, ça se passe en Serbie avec des étudiants qui manifestent depuis 6 mois, vous le savez, et une mine de lithium aussi qui rentre dans la considération, si je puis dire. Je vous laisse découvrir ça dans un instant. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche, sous les radars.
Aux Philippines, un ex-président détenu par la justice internationale, mais tout de même élu maire.
Le Monde à 18h50 et Louise Baudet. Bonsoir Louise.
Bonsoir, je vous raconterai pourquoi, malgré la trêve douanière, la guerre commerciale Chine-États-Unis continue, l'Amérique latine en champ de bataille.
Et Caroline, au pays des 27 avec Caroline Gillet, bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne. Alors on entend souvent parler des accords comme celui avec le Mercosur. Comment est-ce que l'Union européenne concrètement passe ces accords ? Ce soir, je vous propose d'entendre une des personnes qui a longtemps été aux tables de négociation au nom de la Commission.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète commence à peine. Il passe par la Suède et comme ne l'indique pas son nom, voici José González. Ses parents avaient fui la dictature argentine. Le morceau s'appelle El Invento. Vous êtes dans Un jour dans le monde, à tout de suite.
Y por agradecer lo extraño de simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma eterna.
tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Y en el amanecer, cuando todo va a cambiar, todo de color, y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime. Pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Estamos, dime, ¿por qué?
Le reportage ce soir retourne en Serbie, dans Un jour dans le monde, au milieu des étudiants, des habitants, tous ceux qui manifestent contre la corruption et le système de Vucic depuis 6 mois. Le mouvement a réveillé la société civile serbe parmi ceux qui travaillent à faire entrer le pays dans l'Union européenne. Le mouvement crée aussi des alliances et des convergences. Les étudiants ont ainsi apporté la semaine dernière leur soutien aux opposants à un projet très symbolique, celui de la multinationale Rio Tinto, qui prévoit d'exploiter l'une des plus grandes mines de lithium au monde. Elle est juste de l'autre côté de la frontière de l'Union. Et le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Dans une ambiance de fête, ils arrivent par petits groupes avec leurs gilets jaunes recouverts de badges et leurs sifflets autour du cou. Les étudiants affluent à Loznica, une petite ville de l'ouest de la Serbie où pourrait bientôt s'ouvrir la plus grande mine de lithium d'Europe. À 21 ans, Nicolas est venu à vélo dire son opposition au projet.
Je suis venu manifester contre Rio Tinto pour défendre la vallée du Jadar et à cause de toutes ces choses inquiétantes qui sont de la responsabilité du gouvernement. On se mobilise ici en tant qu'étudiants contre le projet de mine de Rio Tinto parce qu'on est nombreux à avoir grandi avec la nature. On sent qu'il faut la défendre, car certains des projets actuels pourraient avoir des conséquences négatives pour nous tous.
Depuis la catastrophe de la gare de Novi Sad qui a fait 16 morts en novembre dernier, élément déclencheur de leur mouvement, les étudiants serbes dénoncent sans relâche la corruption meurtrière du régime du président Vucic. Au fil des semaines, ils ont multiplié les actions pour l'état de droit, souvent avec le soutien des agriculteurs de Loznica qui les aident à bloquer les routes avec leurs tracteurs. Zlatko Kokanovic est le chef de file de l'initiative « Ne donnons pas le Jadar », opposé au projet de mine de lithium.
Nos revendications sont similaires à celles des étudiants car nous avons les mêmes problèmes avec les institutions. Les autorités ont usurpé le pouvoir de toutes les institutions du pays, le système judiciaire, l'armée, l'église, la police. Ce pouvoir a plongé le pays dans un état d'immoralité, de corruption et de crime.
La vallée du Jadar, où la mine pourrait voir le jour, offre un cadre enchanteur avec des petits champs fertiles entourés de collines verdoyantes. Mais dans le village avoisinant, plusieurs maisons n'ont plus de toit ni de fenêtres. Beaucoup d'habitants ont cédé leur terrain à la multinationale. Au milieu de ce paysage de désolation, Maria Agic-Molner participe comme chaque week-end à une course de relais en soutien aux étudiants.
Ces dernières années, nous étions cachés dans des trous de souris face à ce pouvoir. Nous restions silencieux, mais les étudiants nous ont poussés à ne plus nous taire. Sur Rio Tinto, tout le monde est maintenant informé de l'impact de ce projet sur l'approvisionnement en eau. Mais l'élite politique n'écoute pas les acteurs compétents. C'est pour ça que nous sommes ici, pour dire que ça suffit.
Ikada.
Grâce au gisement du Jadar, la multinationale Rio Tinto prévoit l'extraction dès 2028 de plus de 58 000 tonnes de lithium par an, de quoi assurer la production de plus de 1 million de véhicules électriques. Mais en Serbie, le projet est devenu le symbole de la vente des ressources naturelles par un régime corrompu à des entreprises étrangères peu scrupuleuses. Et les citoyens serbes s'inquiètent notamment pour leur accès à l'eau. Krizmanić Imre est professeur de biologie à la faculté de Belgrade.
Des millions de tonnes de déchets, des plus toxiques, vont être déposés dans des caisses aux parois de quelques millimètres d'épaisseur. De l'arsenic, du bore, des métaux lourds. Ces déchets vont rester ici, pénétrer le sol et infiltrer nos cours d'eau. Et on se trouve dans une région qui est la plus grande réserve d'eau potable de l'ouest de la Serbie.
En 2022, le président Vučić avait suspendu ce projet controversé à la suite de manifestations gigantesques partout en Serbie. Mais l'été dernier, le projet a été relancé par la signature d'un partenariat stratégique avec l'Union européenne en présence du chancelier Olaf Scholz. Un choc pour la jeunesse de Loznica qui ne veut pas être sacrifiée au profit de l'électrification de l'industrie automobile allemande. Nena Popovic, 18 ans.
Je pense que savoir comment nous allons vivre et protéger notre environnement est bien plus important que de savoir si nous aurons des voitures électriques. Actuellement, on peut vivre sans ces batteries, donc on peut continuer. Mais sans eau et sans air, personne ne peut survivre.
Depuis plusieurs semaines, les étudiants serbes tentent d'obtenir le soutien des dirigeants européens dans leur lutte pour l'état de droit. Sans grand succès, puisque le président Vučić a encore été reçu par Emmanuel Macron le mois dernier. Le président français n'a pas eu un mot pour ce mouvement inédit en faveur de la démocratie.
Louis Seyé pour le reportage. À très vite, Louis. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord en Afrique du Sud avec une reconnaissance.
Dans l'un des plus gros scandales sanitaires de l'histoire, en 2017 et 2018, une épidémie de listériose fait 180 morts en Afrique du Sud, près de 1000 personnes infectées au total. L'enquête détermine l'origine, une usine de la plus grande entreprise agroalimentaire sud-africaine, Tiger Brands, qui produisait notamment des saucisses très populaires dans le pays. La listériose, qui peut aller jusqu'à une infection mortelle du cerveau et provoquée par la listeria, cette bactérie qui se développe surtout dans la viande. Elle se retrouve principalement dans les plats cuisinés, plus globalement les produits transformés en cas de non-respect des standards d'hygiène. En 2018, un groupe de victimes a déposé un recours collectif contre Tiger Brands qui, pour la première fois hier, a reconnu indirectement sa responsabilité puisqu'elle propose d'indemniser les plaignants, un accord pour éviter le procès bien sûr, promettant l'anonymat à celles et ceux qui choisiraient d'en bénéficier. L'offre est soumise à certaines conditions et a été faite sans reconnaissance de responsabilité, a indiqué l'entreprise dans son communiqué. Malgré tout, les avocats des victimes qui se battent donc depuis 7 ans voient dans cette décision une évolution positive vers la responsabilité des entreprises et la justice.
Aux Philippines où l'on votait hier.
Oui, pour le Sénat et la Chambre des représentants, élection législative dans un contexte tendu. La vie politique philippine étant dominée par la rivalité entre deux dynasties, celle du président Ferdinand Marcos Jr. d'un côté, celle de sa vice-présidente Sara Duterte de l'autre, dont le père, Rodrigo, a été président de 2016 à 2022 et il est actuellement détenu à La Haye par la Cour pénale internationale qui le poursuit pour crimes contre l'humanité. Pour sa politique ultra-répressive contre le trafic de drogue durant son mandat, ce qui ne l'empêche pas de remporter l'élection municipale dans son fief Davao, ville de près de 2 millions d'habitants. Le dépouillement n'est pas encore terminé, mais son avance est considérable. Il est sûr d'être élu. Sa fille a d'ores et déjà annoncé que les démarches étaient en cours pour qu'il devienne maire malgré tout. À 80 ans, il dirigerait donc la ville depuis sa cellule aux Pays-Bas. Situation surréaliste, d'autant que la CPI impose des restrictions de communication assez drastique avec l'extérieur.
Et puis nous sommes en Belgique, voici des retrouvailles.
Entre une championne et ses métaux précieux, l'ancienne judokate Jella Vandekavej, double médaillée olympique de judo, a récupéré hier dans un commissariat près d'Anvers ses deux médailles, l'argent obtenu au JO d'Atlanta en 96 en moins de 61 kilos et le bronze à Sydney 4 ans plus tard, catégorie moins de 63 kilos. Fin 2023, ces deux récompenses lui sont volées dans sa voiture à la gare de Bruxelles et il y a quelques jours, elles ont été repérées sur un site
de vente aux enchères. Pas très discret, hein. C'est un collectionneur qui s'en est aperçu et a prévenu la police. Si le CEO lui avait envoyé des répliques, hein, rien ne vaut les originales, selon Yela Van de Kaveh, qui s'est dite hier évidemment très heureuse d'avoir récupéré ses biens. Et pour remercier les policiers qui ont remis la main sur les médailles, eh bien, elle leur a fait porter autour du cou, elle les a médaillées elle-même au commissariat.
C'est quand même le minimum.
Bah oui, quand même.
Allez Kevin, merci beaucoup. Vous revenez demain. Vous partez en passant par le Nigeria avec Obong Jayar, Not in Surrender. C'est tiré de son prochain album qui va s'appeler Paradise Now, qui sort le 30 mai, donc dans une petite quinzaine de jours maintenant. Not in Surrender est en playlist sur Inter. I put my hands up, not in surrender. I'm getting ready to fly. I'm superhuman, I'm supernova. I burn the candle both sides. Your force is coursing right through my body. I feel the temperature rise. I only want this, it's hallelujah. Is wanting open 7 days of the week. Your life is constant, it's never stopping. Just take a second and breathe. Jaya, Not in Surrender sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Louise Baudet.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Et ce soir, Louise, vous nous expliquez pourquoi la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est loin d'être terminée.
Ah oui, on y a presque cru, hein, avec ces droits de douane délirants oubliés pour un temps, surtaxes de 125 et 145%, ramenés à 10 et 30%, toute première étape du long chemin vers un hypothétique accord commercial entre les deux premières puissances mondiales et surtout des escalades en trompe-l'œil, à entendre la virulence de Xi Jinping ce matin, l'encre de la trêve à peine sèche. Harcèlement, tyrannie, il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales. Clairement, le président chinois vise les États-Unis. Obsédé par la loi du plus fort, complète le chef de sa diplomatie, on est loin du climat amical promis par Donald Trump.
Alors, très offensif, le président chinois, effectivement, il s'exprimait devant un parterre de dirigeants latino-américains, Louise, et ça, c'est pas un hasard.
Oui, le brésilien Lula, le chilien Gabriel Boric, le colombien Gustavo Petro et des dizaines d'autres sont réunis aujourd'hui à Pékin pour un sommet entre la Chine et la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, le sous-continent longtemps précaré des États-Unis où l'influence chinoise gagne du terrain. Les échanges commerciaux ont doublé en une décennie, au point que Pékin supplante désormais Washington comme premier partenaire du Brésil, du Pérou et du Chili. Et puis les deux tiers des pays latino-américains adhèrent aux fameuses nouvelles routes de la soie, axe central de la stratégie de Pékin pour assurer assurer ses approvisionnements et tisser sa toile diplomatique. Washington réplique d'ailleurs, depuis son entrée en fonction fin janvier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu dans pas moins de 8 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Il a obtenu le retrait du Panama des nouvelles routes de la soie, celle-là même que le Colombien Gustavo Petro entend rejoindre. Depuis Pékin, celui-ci a fustigé ce matin l'autoritarisme et l'impérialisme, sous-entendu américain, au diapason de Xi Jinping, qui se pose lui en partenaire fiable et respectueux, défenseur du multilatéralisme.
Et cette offensive de charme de Pékin ne se limite pas à l'Amérique latine.
Effectivement, Xi Jinping a promis ce matin plus de 8 milliards d'euros en faveur du développement des pays d'Amérique latine et des Caraïbes et une coopération plus poussée dans l'énergie, les infrastructures et l'éducation. Mais il était aussi le mois dernier en Asie du Sud-Est, accueilli en majesté au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge, partenaire clé face à la pression américaine. Et puis la semaine dernière, Pékin a renouvelé son invitation aux dirigeants européens pour un sommet Chine-UE prévu en juillet. La patronne de la commission Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie des 27, Antonio Costa, sont officiellement les bienvenus. Après la visite remarquée du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez le mois dernier, visite critiquée alors par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, sa coquinée avec Pékin revenant selon lui à se trancher la gorge.
Et alors Louise, il y a un paradoxe dans cette guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington.
Oui, aucun des belligérants ne peut se passer de l'autre, pas de découplage possible, d'où la trêve douanière conclue hier. Mais parallèlement, chacun essaie de diversifier ses débouchés et ses approvisionnements, et les Européens ne sont pas en reste. Les accords commerciaux sont de nouveau tendance parmi les 27, n'en déplaise à la France qui continue de s'opposer en l'état à l'accord avec le Mercosur. L'Amérique latine, on y revient, décidément très courtisée. Cet accord, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz veut au contraire le ratifier sans délai. Emmanuel Macron aura l'occasion d'en reparler avec le Brésilien Lula qui sera en France début juillet pour une visite d'État.
Merci beaucoup Louise Baudet, merci à demain. Le mardi, on pousse les portes de l'Europe pour regarder ce qui se passe là où on ne va jamais. Et justement, le Mercosur d'ailleurs, on va y retourner, c'est Caroline au Pays des 27 avec Caroline Gillet.
France Inter, le 18-20.
Pile dessus, Caroline, ce soir vous poursuivez vos chroniques sur les accords entre l'Union et le Mercosur.
Oui, je poursuis ce que j'ai appelé ma mini-série pour faire plus attractif sur un sujet très technique. J'ai rencontré Nicolas Dross qui travaille sur des questions de politique commerciale à la Commission et qui depuis quelque temps a rejoint la représentation permanente de la Commission en France. Ils ont deux bureaux, un à Marseille où on était allé l'année dernière et un à Paris. Nicolas, bonjour, ça va ?
Ça va.
Vous êtes habillé en costume gris avec des baskets blanches, ce qui est assez rare... Pour un fonctionnaire européen, non ?
Je me suis dit, comme je rencontre une journaliste, je devais adopter un look un peu plus informel.
On attend l'ascenseur pour monter au 7e. Et quand les portes s'ouvrent, il y a déjà une dame avec un chariot poubelle.
On se joint à elle ou...
Bon, je trouve qu'il y a de la place. Si ça vous ennuie pas, madame.
Non, 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 ça va.
Est-ce que parfois vous avez envie de jeter des fonctionnaires européens dans la poubelle ? On passe la sécurité et Nicolas me montre l'open space où il travaille habituellement.
Ça va, ça se passe bien, la représentation, vous représentez bien.
On représente bien.
On se met dans un petit espace de réunion avec Nicolas et je lui demande ce que c'est une représentation permanente et quel est le rapport avec le commerce.
La première chose, c'est informer la France au sens large sur les politiques européennes et notamment sur la politique commerciale. Puisqu'on a des accords de commerce avec 76 pays, donc c'est le réseau d'accords de commerce le plus riche du monde. Par comparaison, par exemple, les États-Unis, c'est seulement 20 accords de commerce.
En ce moment, l'Union européenne, qui a donc un mandat de la part des 27 pour s'occuper des questions de commerce, négocie des accords avec l'Inde, la Malaisie, l'Australie et l'Indonésie. Et puis bien sûr, on attend les prochaines étapes pour l'accord UE-Mercosur qui est en cours.
C'est vraiment de la pédagogie à destination des citoyens, des entreprises et aussi des autorités françaises.
Sur son bureau, je remarque un carnet de notes. Ça permet de parler d'un exemple très concret.
J'avais
des notes illisibles. Hier, on était en fait au Sénat pour une audition parce que le Sénat est en train de préparer un rapport sur la filière automobile française. Et donc, notre action en tant que Commission européenne sur la politique commerciale, a vraiment un impact sur la filière automobile française. Donc il y a à la fois une dimension offensive à l'export, c'est-à-dire pouvoir exporter nos véhicules qui sont produits en France, mais également une partie défensive, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas de concurrence déloyale. On a agi, ce qui a été beaucoup dans l'actualité, sur les véhicules électriques chinois. Ensuite, j'ai une autre mission, c'est d'informer un petit peu Bruxelles sur ce qui se passe en France. Quelle est la position de la France sur l'accord UE-Mercosur ? La France est plutôt opposée à l'accord en l'état. Pourquoi est-ce que la France est dans cette position ?
Nicolas, globalement, vous l'aurez compris, est pro-accord de commerce.
Ce qu'on pense, c'est qu'un accord de commerce, c'est toujours un plus dans une relation commerciale en matière de droits de l'homme, en matière d'écologie, par rapport à une absence d'accord.
Et avant de venir sur ce poste à Paris, il était à Bruxelles, en charge précisément de la négociation d'accord.
J'ai beaucoup négocié des poissons avec le Vietnam, du thon avec le Japon, des poissons avec des pays comme la Norvège.
Ça ressemble à quoi concrètement des négociations ? Est-ce que vous êtes autour d'une table ?
Il y a des rounds de négociations, parfois 2 rounds de négociations par an. C'est vraiment le moment où on se retrouve autour d'une table pour discuter des sujets.
Nicolas est très appliqué. Quand je lui demande de décrire une scène de négociation, il le fait avec précision.
On est souvent dans un ministère, souvent le ministère des Affaires étrangères. C'est assez froid. Au mur, vous avez souvent des posters liés à des événements qui ont été organisés par le ministère.
Il y a bien longtemps et qui sont un peu jaunis.
C'est ça, un peu jaunis, avec des dates anciennes, on n'était pas encore nés, tout ça. Vous avez dans cette salle une table qui en général est une table rectangulaire et longue. Nous, en général, on est assez peu nombreux. C'est pas rare d'être 2 ou 3 dans la salle du côté européen. L'autre partie, il peut y avoir 20 personnes. On a des milliers et des milliers de lignes de tarifs. Donc, il y a une ligne, ça va être les stylos-plumes. Une ligne, ça va être les sièges de bureau. Et donc, pour chacune de ces lignes, on doit définir est-ce que les droits de douane vont être supprimés rapidement ou avec un certain délai.
Et ça doit être assez intimidant quand on entre dans une pièce et vous avez 20 personne face à vous sur cette table et...
Alors, en fait, il peut y avoir une personne qui peut vous intimider et vous pouvez avoir 20 personnes et pas être intimidé. En fait, je trouve que le nombre n'est pas forcément quelque chose qui va être très intimidant. Après, c'est clair qu'il y a des moments où il faut savoir dire non et je me souviens de négociations où je suis dans une salle qui est extrêmement hostile à l'Union européenne et les personnes autour de la table, les uns après les autres, demandent au président la parole pour dire que l'Union européenne fait un très mauvais choix sur ce point.
Ce serait quand même vraiment intéressant. Je lui demande ce qui se négociait ce jour-là, qui était si compliqué. Quand il finit par me le dire, c'est très décevant.
On appelle ça le VMS.
Donc je vous épargne, je ne garde pas la réponse.
Parfois, la plus grande difficulté, c'est de convaincre en interne de prendre une certaine position. Donc en fait, la négociation, elle n'est pas toujours là où on pense.
Et voilà, Fabienne, l'Union européenne, c'est décidément plein de surprises.
Et ouais, l'art de la négociation. Il y en a d'autres qui appellent ça l'art du deal, et je ne sais pas s'ils sont fréquentables. Allez, Carolina, à mardi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Et juste après, le téléphone sonne. Bonsoir, Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, ma prime rénove et ses délais.
Antoine, bonsoir. Nous avons fait des travaux il y a plus d'un an, installation d'un poêle et isolation des combles, et toujours pas de prime. Il a fallu soumettre le devis 5 fois pour que les travaux soient acceptés. Alice, nous avons fait une rénovation globale avec une aide de plus de 30 000 euros validée par ma prime Rénov. En juin 2024, nous étions accompagnés par un architecte, un accompagnateur. On ne pouvait pas faire mieux. Toutes les factures ont été transmises. Nous n'avons toujours aucun paiement, aucune nouvelle.
01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous et c'est le même chemin par WhatsApp.